Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de Podcast, le podcast de la WBD. Et bonjour Jackpot.
Et bonjour Ia.
Eh, ça biche ?
Écoute, ça va bien. Là, je sors d'une période de travail un peu compliquée, du coup, on a dû mettre Joe en pause, malgré notre volonté avec Soyuz, mais là, ça va reprendre, on est sur le strip 76.
Ah, bah tu m'envoies ravi.
Et toi, Frozen Fright ?
Ouf, alors, moi, ça fait un bon bout de temps que je suis en hiatus, et c'est aussi pour raison que j'arrivais plus à concilier le boulot avec le fait d'avoir un webcomic à gérer toute seule. Et d'autant plus que l'étape dont on va parler aujourd'hui, c'est l'étape à laquelle j'étais bloquée en quelque sorte, parce que c'est une étape qui demande énormément de concentration, et c'est une denrée rare en ce qui me concerne, et je n'en avais plus à donner après le boulot ou pendant les week-ends.
Ce qui se comprend.
Voilà, donc, et ben justement, de quoi va-t-on parler dans cet épisode ?
Eh bien oui, dis-nous tout !
Eh bien, on va parler de découpage. Qu'est-ce que le découpage, me direz-vous ? Le découpage, c'est l'étape qui est juste après le script, plus ou moins. Après, ça dépend de vos méthodes de travail, mais en gros vous avez votre script avec tout qui est écrit avec de jolis mots, et vous voulez commencer à mettre des dessins dessus. Donc, vous allez faire
un brouillon, en fait.
Voilà, un brouillon, un squelette de votre BD, donc ce qu'on va aussi pouvoir appeler thumbnails avec des dessins tout petits, ou storyboard, parce que ça s'en rapproche pas mal.
Voilà.
Et donc c'est la mise en place vraiment de la narration, et il va sans dire que c'est très très important pour un média narratif.
Là, on va pas transiger, la position de podcast est sans équivoque, c'est très important.
Oui, c'est très important d'avoir une bonne narration dans un média narratif. Un mauvais découpage peut vraiment gâcher un bon scénario. Enfin, moi j'en ai des exemples de BD que j'ai commencé à lire en me disant « l'intrigue a l'air sympa » ou « les dessins sont super jolis ». Et au bout de quelques pages, j'abandonnais parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, en fait. Voilà. J'arrivais pas à suivre les déplacements des personnages, j'arrivais pas à suivre qui était qui. Il y avait un personnage qui apparaissait là au beau milieu de nulle part, je ne savais pas qui il était. Enfin, c'est...
Ou quand tu situes pas les personnages dans le décor, tu comprends pas les actions,
vraiment. Ou que t'arrives pas à savoir qui dit quoi,
voilà.
Aussi.
Le diagnostic est sans appel, c'est un mauvais découpage.
Oui. Et donc, donc la conclusion, c'est si on comprend pas ce qui se passe, et ben, on lira pas votre BD, même si vous avez de super talents de scénariste ou de dessinateur.
Voilà. Mais podcast est là pour vous aider.
Enfin, on va essayer.
Donc, on va commencer comme d'habitude par vous raconter un peu comment nous on procède, et ensuite on fera un petit débrief général. On commence donc. Vas-y, toi, Ia, comment est le script quand tu commences ton découpage, c'est à quel stade de ton script en fait ?
Ouais. Alors moi, du coup, comme je bosse toute seule, j'essaye de me donner le plus d'indications dans le script, c'est-à-dire je veux savoir exactement ce qui se passe. Dans mon chapitre, je procède chapitre par chapitre, hein. Je crois que je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents,
mais vous le rappeler pour ceux qui n'ont pas encore écouté tous les épisodes.
Voilà. Donc j'ai tout mon chapitre décrit en quelque sorte, parce que les dialogues, c'est important que je les ai écrits, par exemple.
Ouais.
Et au stade auquel j'en suis, je suis pas encore très très capable d'estimer si je fais trop ou pas assez de dialogues. Donc je suis encore un peu dans le je teste et je vois si ça marche et je réajuste au fur et à mesure. Donc
c'est pas définitif en fait, c'est pas figé, c'est pas écrit dans le marbre quoi.
C'est ça. Moi mon but c'est de faire 30 pages.
D'accord, 30 pages par chapitre.
Donc voilà, à partir du script que j'ai, je veux que ça fasse 30 pages maximum.
T'as décidé ça arbitrairement, 30 pages ou...
Je trouvais que c'était bien.
D'accord.
J'ai pas d'autres raisons vraiment, c'est juste 30 pages pour un chapitre, je trouvais que c'était bien.
Ok.
Et puis après aussi, ça dépend aussi de quelle quantité on met par page dans son chapitre.
Oui, bien sûr.
Moi j'ai l'impression que. C'est ce qu'il faut pour que ça respire, mais qu'il se passe suffisamment de trucs dans chaque page. Bon, enfin bref, ce sera. J'en discuterai peut-être un peu plus parce que là, je vais revenir sur le script. Donc mes dialogues, c'est ce que je détaille le plus. Je me donne des indications d'action, mais je me donne pas beaucoup d'indications visuelles, à part si j'ai des idées très précises et que j'ai peur d'oublier, parce que comme je bosse seule et que je compte un peu sur mes propres capacités à visualiser des choses au moment où je les dessine. C'est l'un des trucs où je me laisse de la marge de manœuvre, de la possibilité d'improviser un petit peu en fait.
D'accord.
Voilà. Et toi, du coup, comment tu procèdes puisque toi tu reçois les scripts de Soyuz ?
Donc Soyuz, en fait, elle m'envoie le script entier, mais elle me fait pas. Je sais qu'il y a certains scénaristes qui procèdent comme ça en bande dessinée, ils envoient un tableau à leur dessinateur ou leur dessinatrice avec case 1, il se passe ci, tel dialogue. Case 2, il se passe ci, tel dialogue, et comme ça c'est séquencé en fait.
Ouais.
Elle, c'est pas ça, c'est elle m'envoie le strip en entier, du début à la fin c'est écrit en prose, avec les dialogues. Donc la première chose que je fais, c'est je prends, je surligne en fait, le texte, je change de couleur en fonction, je découpe en cases en fait. C'est-à-dire, je me dis ça va être une case. Donc je le mets en noir. La phrase suivante que je vais mettre dans une seule case, je la mets en bleu par exemple. Et comme ça, je me fais une alternance. Et déjà, je découpe vraiment mon script en cases.
D'accord.
Je le répartis dans les cases. Comme j'ai pas la question du nombre de pages, puisque je suis en strip et justement, on a choisi ce format pour s'affranchir de cette contrainte. Je me pose juste la question de répartir dans des cases.
D'accord. Et du coup, alors, comment tu fais pour choisir quelle quantité du script va faire une case? Et aussi, il y a un truc qui est un peu spécial avec les scripts que vous faites avec Surius, c'est que moi, par exemple, je sais un chapitre, c'est 30 pages maximum, mais vous, vos scripts, ils peuvent être très longs, très courts.
Sky is the limit, no limit. Voilà, justement, c'est l'avantage d'avoir choisi, d'avoir voulu faire un webcomic, c'est justement pour pas avoir cette contrainte-là. Donc ça peut être très bien, le strip le plus court qu'on ait fait, il fait 6 cases, je crois. Et le plus long, il en fait 36, il me semble,
d'accord,
si je me souviens bien. Donc c'est vraiment à l'envie, on n'a pas du tout envie de se casser la tête avec ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Après, globalement, la moyenne, elle tourne à 20 cases.
En fait,
parce que on avait quand même des contraintes de temps. Donc moi, faire 6 cases en 2 semaines, c'était pas la même chose qu'en faire 36.
Clairement.
J'ai mangé comme dit à Soyuz, bon, il faudrait quand même faire... Donc des fois, ça arrive qu'on coupe un peu. Ça arrive qu'on négocie un peu le script, que moi je réarrange un petit peu pour enlever certains trucs. Bon.
Ok, mais globalement, Soyuz, en fait, elle prépare juste... narrativement, quel bloc on a besoin d'avoir
pour... Voilà, c'est ça. Okay. Par le bloc général, ça fait en gros une page, une demi-page de script, quoi. C'est pas très bon.
Du coup, je reviens sur ma question précédente, ma seconde question, c'est comment toi, tu choisis pour dire telle partie du script, ça fait une seule case?
Alors moi, j'ai une règle très simple, c'est une action, une case. Je considère que pour que ce soit lisible, pour qu'on comprenne bien et que je me casse pas la tête, s'il y a une action importante, ça va être une case, de toute façon. Et voire, ça peut être plusieurs cases, parce que moi j'ai tendance parfois à surdécouper les actions.
D'accord.
C'est-à-dire que ce que t'écris en une phrase, si tu veux vraiment le faire comprendre, en fait t'auras besoin de plusieurs dessins, donc plusieurs cases.
En fait, le strip de 36 cases, c'était juste... il se passait deux choses,
il y avait deux lignes,
tu l'as surdécoupé.
Alors là, pour le coup, en fait, il y a aussi l'inverse des fois qui se passe, c'est que je me dis, oh, ça va être compliqué, ça, je vais le synthétiser, et finalement, je fais peu de cases pour un truc que j'aurais pu faire en plus. Enfin, voilà, il y a un curseur, je peux adapter, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on peut choisir de montrer ou de ne pas montrer.
Tout à fait, parce que des fois, je me pose aussi la question, comment je vais faire pour montrer ça, pour faire comprendre qu'il se passe ça sans le montrer, justement. Parce que je suis un peu feignasse aussi, et voilà.
D'accord. Donc toi, ce découpage du script, c'est la première chose que tu fais quand tu l'as lu, et les premières choses que tu dessines, du coup.
Alors du coup, en fait, c'est très instinctif, c'est à la lecture, vraiment la première lecture, je vais avoir des images. Et c'est ces images-là que je vais dessiner d'abord. C'est pas forcément dans l'ordre, ça va être vraiment des points précis de ce que je lis, où tout de suite j'ai visualisé quelque chose, donc ça, c'est mes points de départ, vraiment, c'est les pierres angulaires, quoi, trucs...
T'as les moments clés qui arrivent et que tu...
Ce sont ces moments clés, mais du coup je les pose tout de suite et je me dis, ça je veux que ce soit comme ça, c'est la première chose qui m'est venue, ça me plaît, c'est comme ça que je le veux. Et c'est à partir de là que je vais construire le reste en fait, je réduis les variables en fait au fur et à mesure.
D'accord.
Parce qu'en soi, ces images-là que j'ai, ça pourrait totalement être fait autrement en fait. Je peux aussi le remettre en question, ça peut arriver, mais en général je me dis bon... Je mets un entonnoir de questions et voilà, j'enlève tout de suite ces questions-là. Cette case-là, je veux comme ça.
Oui, donc tu fonctionnes en grande partie à l'instinct pour ce qui est de démarrer, quoi.
Ouais, le démarrage, c'est l'instinct.
D'accord. Ouais, c'est vachement intéressant que toi, tu aies des images qui viennent dans éparses, on va dire, sur ton script, parce que moi, c'est vraiment... C'est vraiment chronologique, la façon dont je fais... Donc moi, je fais ce que je disais tout à l'heure en intro, je fais des thumbnails, où en fait, j'ai mon petit cahier, où je dessine mes petites pages.
Qu'elle a apporté avec elle aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir, évidemment, il est juste
devant
toi. Elle a un magnifique petit cahier, où effectivement, on a, chaque page est divisée en deux colonnes, donc sur la colonne de gauche, il y a ses pages, en fait, trois pages l'une au-dessus de l'autre.
Dessiner en petit, mais juste suffisamment grand pour qu'on puisse voir le découpage des cases à l'intérieur de la page et le positionnement des personnages au début.
Je m'attendais à un truc encore plus petit. Hein. Là, c'est quand même... Elle fait quoi 5 cm 5-6 cm. Quoi.
Oui. Ouais, ça peut être encore plus petit que ça. Hein,
et sur la colonne de droite, t'as écrit tes dialogues.
C'est
avec
ça.
Des numéros.
Pour qu'ils correspondent aux bulles à l'intérieur des pages. Et du coup, en fait, de fonctionner comme ça, ça me permet d'avoir en vis-à-vis... toutes les pages qui se suivent et qui sont côte à côte et etc. pour voir un peu que ce soit pas trop monotone, que je répète pas trop les mêmes compositions de pages, et aussi pour voir si ça se suit bien d'une page à l'autre, et aussi d'avoir un cahier comme ça et de dessiner. Moi, je trouve que je vais plus vite quand je fais des petits croquis sur du papier que sur l'ordinateur, donc c'est aussi une question de...
Ça, tu le fais toujours sur papier, ouais.
Cette étape-là, oui. C'est quand il s'agit de faire des tests et des bidouilles, parce que je fais aussi beaucoup de dessins dans les marges quand je suis pas sûre d'une chose que j'ai faite, et puis je rature et je refais des trucs sur le côté.
Il y a certaines planches que t'as barrées, t'en as fait une autre en dessous.
Ouais.
Il y a des fois, effectivement, sur la marge, sur la colonne de droite, il y a d'autres croquis pour d'autres propositions.
C'est ça. Et aussi, il y a des pages où des fois, je vais noter plus d'indications sur... comment dire.
Ouais, je vais pas forcément faire le dessin, notes,
mais je vais noter le fond étant fondu, enfin des trucs d'accord, comme ça, ouais. Des trucs qui sont pas forcément simples à représenter quand on est sur un tout petit espace avec un crayon à papier, parce que du coup je mets pas de couleur non plus.
Oui, non, bah oui, c'est il faut que ça aille vite en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est pas des dessins, c'est pas des beaux dessins, mais c'est vraiment des bonshommes patates quoi. Le bonhomme il a juste un rond pour la tête, deux points, et puis voilà quoi. Voilà. Mais on comprend en fait.
Le principe c'est que moi, comme je travaille seule, je puisse regarder mes petits croquis et comprendre ce que je voulais dire, et toi du coup que tu puisses les envoyer à Soyuz et qu'elle comprenne aussi.
Ouais, moi du coup en fait, donc ce que je fais un peu comme toi, je travaille d'abord sur papier, donc jette mes premiers croquis. Donc du coup, moi, je me pose pas la question des cadres, puisque mon format, il est déjà défini. J'ai pas la question du gaufrier ni du découpage en page, du séquençage plutôt. Donc je fais mes petits croquis comme ça sur une feuille volante. Et quand c'est à peu près clair dans ma tête, je les scanne ou je les photographie. Et là, je passe à l'ordi et je mets tout dans mes cases, puisque j'ai mon gabarit de cases qui est prêt. Donc je prends, il faut 20 cases pour celui-là, donc je prends 20 cases et je mets mes croquis dedans. Et je vais tout de suite passer les textes aussi. Et du coup, moi, je les réécris pas, je les tape directement en fait. Je vais directement dans Photoshop et je mets les textes.
Moi, j'ai pas réécrit l'intégralité de mes textes. Hein. Souvent, j'ai mis entre crochets.
Oui,
parce que mon script, il est écrit sur un fichier sur mon ordinateur. Donc, c'est plus pour que je puisse travailler sur mon carnet de croquis sans avoir à trop me référer à mon ordinateur tout le temps que je renote mes dialogues. Ouais. Mais je sais pas, pour me rajouter du travail en plus.
Après, tu les modifies des fois.
Oui, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Ceci étant dit, comme je travaille toute seule, je peux me rendre compte que parce que j'ai choisi cette disposition de cases ou parce que finalement en fait mon dialogue il était pas terrible, je vais les changer à cette étape-là.
Ouais, t'as quand même une marge de modification sur ton script à ce stade quoi.
Toi, je suppose que ça t'arrive pas de proposer des modifications.
Si, quand même. Si. Des fois on négocie certains points, d'accord. Des fois je vais reformuler quelques phrases.
Tu utilises beaucoup le terme négocier, on dirait que dans un bras de fer permanent.
Non, c'est pas du tout. Alors vraiment pas, c'est absolument pas bras de fer, c'est plus collaboration. C'est on négocie parce qu'on s'échange nos arguments et voilà quoi, c'est pas.
Non mais oui, c'est très bien.
Il y a pas du tout. Non, je suis pas une dessinatrice martyrisée par Soyuz. Non, tout va très bien, Soyuz, si tu nous entends. Tout va bien. Et donc à ce moment-là, toi, tu vas aussi élaguer ton script en fait.
Ouais, carrément. Surtout quand je me rends compte que j'ai plus que ce. Enfin, que ça déborde des 30 pages, c'est la terrible question sempiternelle. Qu'est-ce qu'il va falloir couper du coup, c'est dur, mais encore une fois, faut pas trop avoir d'état d'âme. Et là, par exemple, pour le dernier chapitre sur lequel j'ai bossé, j'ai retiré un gag. RIP, petit gag parti trop tôt. Mais je vais voir au moment où je le mets sur l'ordi, j'ai un peu d'espoir
de pouvoir
peut-être le caser d'une autre façon, mais pour l'instant je suis pas sûre. C'est un gag de Schrödinger. Il existe pas, on sait pas trop, mais oui, enfin c'est la question de quelles sont les actions qu'on peut évincer parce que en fait elles servent pas trop narrativement, voire elles alourdissent. Quelles sont les choses qui sont vraiment indispensables et du coup il faut absolument les garder.
C'est le moment où tu tamises vraiment, tu hiérarchises au maximum les éléments de ton script quoi.
Est-ce que pour tel dialogue il faut faire un découpage en plusieurs cases ou en une seule?
Oui, ça aussi je me posais la question.
Sur
les dialogues, moi je me demande souvent, en fait comme j'ai ma base une action une case, je me dis par exemple quand j'ai une ligne de dialogue, je sais basiquement par défaut je me dis il me faut une case avec le personnage et la bulle de ce qu'il dit. Mais du coup quand c'est des dialogues, des fois est-ce que je vais faire une case où on voit les deux personnages qui se parlent, est-ce que je vais faire une case où on voit qu'un seul personnage mais avec deux bulles dans le personnage qui lui répond, ou est-ce que je vais montrer autre chose même, les dialogues je vais essayer de les répartir en cases en fonction de la rythmique en fait de l'échange plutôt.
En fait ça va dépendre, surtout si un personnage parle longtemps, ça dépendre de...
Clifford
ça va dépendre de... Est-ce qu'on veut montrer la réaction des personnages parce que ça peut être intéressant émotionnellement. Est-ce qu'on veut montrer le... un décor ou un insert sur un objet, parce que ouais. ça peut avoir soit une utilité atmosphérique, soit une utilité narrative, parce que l'objet il est important, il est lié au dialogue, ouais. ou est-ce qu'on reste bien sur le visage de la personne qui parle pour que ça ait un certain impact sur...
Émotionnel,
ouais. voilà, donc il y a toujours des possibilités comme ça, mais c'est...
Faut faire le tri, en fait.
Ouais, voilà. C'est ça. Faut savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à chaque situation.
Il faut tester, en fait. L'intérêt de notre process, quand on fait des thumbnails, ce qu'on appelle thumbnail, c'est le mot anglais qui veut dire ongle du pouce, donc littéralement, pour dire la taille du croquis, c'est vraiment des croquis minuscules. C'est pour qu'on puisse en faire beaucoup, en fait, et pas avoir de scrupules à jeter si ça nous plaît pas, et à tester d'autres choses.
C'est une question de quantité, en fait.
Voilà. Donc ça arrive qu'il y a des cases, elles vont venir du premier coup, comme je vous dis, c'est le flash que j'ai eu à la lecture, et il y en a d'autres où je vais faire 4-5 essais jusqu'à trouver l'agencement qui me convient, quoi. Et qui va avec le reste aussi.
Ouais. Après, c'est le moment où je décide le plus à quoi va ressembler mon chapitre.
Ouais.
Mais malgré ça, comme j'ai mon étape où je pose sur ordinateur ensuite, il y a des endroits où je me dis, ok, ce truc-là, je sais ce qui doit se passer, mais j'ai pas une idée visuelle précise trop tout de suite, et c'est pas très très important, donc je vais laisser un blanc.
Ouais.
Et j'aviserai, ou alors là pour par exemple à la fin du chapitre que j'ai sous les yeux, j'ai un moment où je sais que je veux avoir une succession de certaines images, et je sais ce qui est censé se passer, mais je sais pas exactement précisément quelles images mettre et quel découpage faire pour ces images, donc je me suis dit que ça aussi je le verrai plus tard, mais c'est pas des choses que je me serais permise si j'avais donc une personne ouais. avec qui je travaillais, parce que là j'aurais besoin de vraiment être beaucoup plus précise que ça, ou si j'étais si j'avais moins confiance dans mes capacités d'improvisation à ce niveau-là.
Ouais.
Parce que je sais que j'ai suffisamment de bouteilles dans le dessin quand même pour pouvoir me permettre ça.
Et puis t'as besoin de liberté aussi, parce que
ouais.
Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop... Nous, on a une méthode très empirique, très,
on est très
étape
classique,
par étape, ouais. voilà, rationnelle, etc. Mais des gens qui ont besoin d'être plus spontanés quand ils, ouais. quand ils créent. Et donc, peut-être cette méthode-là ne va pas leur convenir, et ils ont besoin d'aller plus...
Si vous savez que vous avez besoin d'être spontané, se donner autant de règles, c'est peut-être pas...
Oui.
Et puis oui, aussi, du coup, aussi, à un moment, je passe beaucoup de temps sur mes thumbnails, et comme je disais, c'est une étape qui demande énormément de concentration, parce qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir, en fait.
Ouais, c'est vraiment de la réflexion pure, c'est pas du dessin.
Hein. Ouais, moi je trouve ça épuisant, vraiment. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, ok, je sais que je peux improviser là-dessus, j'en ai vraiment marre, ouais, je m'arrête, je considère que c'est bon, quoi. ouais. Et je...
Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que moi, comme j'ai Soyuz, il faut quand même que mon découpage il soit net, qu'on comprenne tout ce qui se passe dedans. Mm. Donc c'est vrai que je vais retravailler quand même un peu à l'ordi mes tout petits croquis, mes premiers croquis, c'est pas cela que je vais lui montrer, je vais quand même le redessiner un tout petit peu, mais vraiment c'est hyper succinct, j'essaye d'être efficace en fait.
Oui.
Faut que ça me prenne pas plus de 3 heures de faire un pré-découpage de un strip.
Puis Soyuz aussi, elle s'y connaît également en dessin, donc aussi, elle est capable d'interpréter certains trucs.
Donc moi je finalise quand même un tout petit peu, je revois un tout petit peu les dessins pour qu'ils soient bien lisibles pour elle. Je rajoute une valeur de gris en fait pour détacher mes arrière-plans
dès cette étape-là.
Ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mal en fait pour justement derrière que je sache ce que j'ai pas besoin de faire en fait.
Ah.
Des fois, je vois des cases au découpage juste avec une valeur de gris, fonctionne hyper bien. Du coup, je me dis je vais pas m'enquiquiner à faire un décor par exemple, tu vois.
D'accord.
Et puis ça les hiérarchise mieux, enfin, c'est plus lisible en fait.
OK.
Et du coup, après je lui envoie. Et à ce moment-là, elle me fait des retours, donc là encore, il y a une phase de négociation. Mais en fait, c'est toujours très constructif, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand elle me propose des modifs, je dis mais oui, c'est vachement mieux. Enfin, il y a vraiment pas de... Il y a assez rarement des cas où on est en conflit. Enfin, vraiment, c'est conflit, c'est vraiment un bien grand mot, quoi. Et,
de toute façon, ça demande trop d'énergie d'être en conflit, alors.
non, franchement. Et donc après, donc, en général, elle me fait des retours, je fais une deuxième version, et en généralement, c'est validé à ce niveau-là.
D'accord.
Et je passe à la suite.
Quoi. C'est cool, ça marche bien. En tout cas, le résultat, il est là, hein, clairement.
Merci. Oui, ça fonctionne bien depuis 6 ans qu'on travaille ensemble, plus, non, je sais plus. J'ai déjà perdu le compte, mais ça fonctionne. Ça, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton process ou...
Ben non, écoute, je crois que c'est à peu près... C'est à peu près tout ce qu'il y avait d'important à te dire. Peut-être que j'ai des trucs qui vont me revenir après, mais là, je crois qu'on a fait le tour,
écoute,
concernant.
La messe est dite, ouais, moi, ça va.
Bon, si la messe est dite.
Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on va faire un petit, comme d'habitude, un petit débrief général. Donc, en fait, ce qui se dégage un peu de notre process, c'est que globalement, quand vous réfléchissez au découpage de votre BD, de votre webcomic, vous allez réfléchir à 4 choses distinctes, en même temps, en fait. Ça va être simultané, mais donc, en gros, on va parler de ces 4 choses-là. Donc, la première... c'est pas forcément la première dans l'ordre où vous l'abordez, mais un de ces facteurs.
Une des plus capitales.
Voilà, c'est le placement des bulles et des textes.
Vraiment. On vous l'a peut-être déjà dit et vous vous êtes dit ouais bon bof, mais non c'est vrai, c'est les bulles, ça va vraiment les placer le plus tôt possible, ça va ouais, vous rendre ouais. un service ah, oui, monumental. Oui.
Parce que bah bon bah on est nous c'est un podcast francophone, donc en France on lit de gauche à droite et de haut en bas, donc basiquement bah vos bulles il faut que vous les placiez dans en suivant cette logique là dans l'ordre de lecture. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas que le lecteur ait à se demander quelle bulle je lis en premier, ou pire qu'il se trompe, qu'il lise une case, une bulle avant l'autre. Ça c'est vraiment la pire erreur. On va pas vous la pardonner celle-là parce que vraiment ça vous nuit, ça nuit à la transmission de votre message.
Ça m'est arrivé une fois de lire une BD où on n'arrivait pas à savoir si les bulles étaient dans le sens français ou
oriental,
ou oriental parce que les dialogues étaient de... je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais les dialogues étaient de telle façon qu'on pouvait les lire dans les deux sens, et du coup on était très confus en lisant. Et en fait, comme le livre en soi parlait de trucs japonais, on s'est dit, ben finalement c'est pas grave. Ça sert un peu le propos, même si c'était pas fait exprès.
Ah oui, d'accord.
Je sais pas du tout.
C'était peut-être un euro-accident ou une volonté.
Voilà, c'était soit un euro-accident qu'il aurait fallu embrasser une fois qu'on s'en soit rendu compte, soit une volonté. Mais du coup, c'est hyper particulier quand même comme cas de figure. À moins que vous cherchiez à rendre votre lecteur confus et qu'il y ait un propos derrière, c'est la chose à laquelle vous devez absolument faire attention.
Ouais. Donc bah voilà. Premièrement, réfléchir à comment placer vos bulles pour qu'on les lise dans le bon ordre. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, faites quand même très attention à ce que votre texte soit lisible.
Ouais.
Donc faites attention à la taille de police, tout simplement. C'est préférable si vous pouvez le faire à l'ordinateur, parce qu'évidemment vous avez une police toute faite qui sera lisible. Vous pouvez quand même aimer le tradi, la vraie BD à l'ancienne avec le lettrage à la main. Mais dans ce cas-là, faites-le peut-être plutôt sur une feuille à part, c'est ça ?
Oui, moi, ce que je disais, si vous ancrez, si vous faites par exemple une BD entièrement en traditionnel et que du coup votre lettrage est traditionnel aussi.
Ce qui peut se comprendre, parce que pour une question d'homogénéité visuelle, vous pouvez avoir envie vraiment d'un lettrage traditionnel.
Alors, personnellement, je peux vraiment pas recommander le lettrage traditionnel parce que ça prend un temps fou et que c'est très très difficile. Mais si vous êtes vraiment maso.
Encore plus maso que nous.
Au point de vouloir le faire. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est éventuellement, si vous pouvez vous le permettre, investir dans une table lumineuse, dont on nous a fait savoir dans un commentaire d'un podcast précédent que maintenant elles étaient beaucoup plus abordables que ce qu'on croyait.
Oui, absolument.
Que c'était moins cher qu'à notre époque.
De notre génération, c'était la denrée rare, on n'en trouvait pas dans les magasins d'art et du coup,
on devait les fabriquer nous-mêmes.
Mais maintenant, il y en a effectivement qui, semble-t-il, sont plus abordables et qu'on peut trouver plus facilement. Oui.
Donc voilà, donc si vous êtes en tradi, de toute façon, la table lumineuse, ce sera vraiment votre allié et un bon investissement pour. Si vous êtes certain que c'est ce que vous allez faire pendant longtemps. Table lumineuse, et d'avoir de commencer une fois que vous avez votre composition de découpage de pages, etc., de commencer par placer vos bulles sur une feuille supplémentaire, et aussi du coup de faire votre lettrage sur une feuille à part pour que si jamais vous chiez, ça n'ait pas d'impact sur votre dessin en dessous, et vrai, parce que ce serait quand même dommage. Mais oui, du coup, que vous ayez au moins ancré au brouillon sur une feuille à part pour pouvoir savoir quelle place vont prendre vos bulles.
Oui, c'est ça, c'est que au lettrage traditionnel, on va pas forcément savoir le paragraphe, la taille de la bulle qu'il lui faut, quoi. Donc ça c'est voilà, c'est le premier point à régler.
Mais même en lettrage numérique, on n'a pas forcément l'œil pour se rendre compte de quelle place ça va prendre. Et selon la taille que prend la bulle, ça peut impliquer que vous devriez revoir votre composition de page, votre composition à l'intérieur de la case, ou aussi, un truc bien, c'est « Oh, cette bulle prend toute cette place-là, ça fait autant de choses que je n'aurais pas à dessiner,
absolument,
parce qu'elles seront cachées !»
Bon, ça, c'est valable pour toi, parce que toi, tu dessines pas ce qu'il y a sous les bulles. Alors moi, je suis... je fais pas ça. Moi, je dessine tout. Bah, ouais, si, moi, je rajoute mes bulles à par-dessus, et parce que je suis un peu maniaque, et j'ai un peu le... J'ai envie que même au dernier moment, je puisse bouger ma bulle et que ça soit pas gênant.
Ça se comprend. Moi, ça dépend un peu. Des fois, il y a des cases où je me dis, hein, celle-là, peut-être, je suis pas sûre, peut-être que j'aurais besoin de décaler la bulle après, et là, je vais dessiner. Mais en règle générale, je vais juste mettre un aplat de couleur derrière, et comme ça, je peux décaler un petit peu ma bulle, tu vois. Mais...
Franchement, faites comme il y a. Bloquez vos bulles et dessinez pas ce qu'il y a derrière, vous gagnerez du temps. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah, déjà, la forme des bulles aussi, ça va entrer en jeu dans la composition de votre image, du coup. Mm-hmm. Et ça, on s'est rendu compte avec hier en discutant qu'on avait eu toutes les deux la même réalisation, c'est que...
Ouais, la même épiphanie.
La même épiphanie, c'est-à-dire que pendant pendant un certain temps, on s'était échiné à faire des bulles plutôt horizontales,
ouais,
en se disant bah, on est des Françaises de France, on parle le français et ça se fait de gauche à droite, oui, de manière horizontale, donc il faut plutôt des paragraphes étirés en longueur, quoi. Alors en fait, pas du tout.
Non, c'était complètement débile.
C'était pas du tout. En fait, les bulles peuvent avoir la forme que vous voulez. Tant que votre texte y rentre dedans, vous pouvez très bien mettre un mot par ligne, en fait.
Moi, je me suis surtout rendu compte en relisant des mangas,
ouais,
que je trouvais le format vertical beaucoup plus agréable, bah, à, oui, la lecture. Et en fait, ça s'explique partiellement par le fait que quand on fait des trop longues lignes et qu'il y a un saut de ligne où l'œil doit parcourir un plus long chemin pour, exactement, revenir à la ligne... au début de la ligne suivante, et ben c'est pas agréable.
C'est ça.
Ça fait voire limite mal à la tête si on est sensible à ça. Mais ouais, du coup, en fait, faire des... découper les paragraphes en plusieurs bulles qui sont un peu plus ou moins juxtaposées,
ouais,
et,
ouais,
Et couper comme ça...
au lieu de faire des gros blocs de texte, justement, répartir en petits blocs de texte, bah, ça peut vous sauver la vie, en fait, ouais, parce que déjà, ce sera plus facile de composer votre image arrière, plus facile de répartir, de faire circuler le regard, enfin, ouais, voilà, c'est tout bénef, quoi.
Oui, ça peut être beaucoup plus intéressant visuellement aussi, c'est d'avoir ça, plusieurs petites bulles, voilà, pour...
Et ça, moi, j'étais un peu coincée là-dedans, parce que, en plus, j'avais mon format de case horizontal, où je me disais, bah, je vais faire des bulles plutôt horizontales, alors qu'en fait, non.
En fait, ça écrase tes personnages.
Voilà. Donc, je me prenais la tête pour rien, enfin, bon. Donc, voilà, nous vous partageons notre épiphanie pour que vous ne perdiez pas les heures de vie que nous avons perdues.
Aussi, puisque tant qu'on est à parler des bulles, ne pas oublier la queue des bulles,
oui,
parce que en fait, quand il n'y a pas de queue, on n'arrive pas forcément à comprendre qui parle.
Voilà,
c'est
ça,
un peu embêtant.
Ça paraît, on est en train d'enfoncer une porte ouverte là, mais elle avait besoin, je pense, d'être. Il faut encore l'enfoncer, il faut encore lui donner un coup de pied. Il faut absolument qu'on sache quel personnage parle.
Ouais.
Sauf si c'est un narrateur et qu'il n'est pas dans la page, hein, mais. Moi, je me souviens d'avoir une lecture très très douloureuse d'un manga il y a de nombreuses années où je ne comprenais jamais qui parlait et c'était un cauchemar. Je ne comprenais vraiment pas qui parle. Enfin, voilà, en même temps, le scénario était un petit peu alambiqué. En plus, ça n'aidait pas, quoi.
Les mangas.
Oh, ça va.
Ah, mais le scénario alambiqué.
On va pas faire du manga shaming comme ça.
Non, juste du scénario de manga shaming. Non, je plaisante, évidemment. J'adore les mangas.
Donc... voilà, pensez à bien mettre la queue de votre bulle qui indique quel personnage parle, et attention, la queue des bulles, c'est comme les effluves, il faut pas les croiser. C'est mal.
Non, mais c'est exact.
Parce que bah, visuellement, c'est pas beau, en fait, bah, dans certains cas, comme toi, IA, où il n'y a pas de contour à tes bulles,
ouais,
c'est des formes
des
blanches,
blanches,
et bah, ouais, si tu croises les... Bah, on va comprendre, en fait, laquelle est par-dessus l'autre.
Et oui.
Donc,
oui,
il faut absolument
ça
éviter
va être,
ça.
Ça va être l'apocalypse.
Voilà. Non, bah, ouais, si, bah, si, quand on croise les effluves, l'apocalypse. Mmh. Et donc, quand on a ce principe en tête, et bah, ça va influer, bah, donc, sur le placement de vos bulles, mais du coup, aussi sur le placement de vos personnages à l'intérieur de vos cases. Parce que, du coup, si vous placez vos bulles de manière à ce qu'on les lise dans l'ordre et que les queues de bulles ne se croisent pas, bah, vous allez vite vous rendre compte que bah, le personnage qui parle en premier, c'est peut-être mieux s'il est à gauche, par exemple, dans le dialogue, dans la scène de dialogue. Et du coup, de cela va découler, bah, toutes les autres cases, etc. Voilà, ça va rentrer en jeu dans la composition de votre case. Et il faut se faciliter la vie aussi. C'est pas la peine de... Enfin, voilà, si vous voyez, si bah, c'est plus facile pour que mes bulles soient lisibles, c'est plus facile de mettre le personnage à gauche, bon, bah, je mets le personnage à gauche. Ça réduit une variable, encore une fois.
Oui. En fait, après, ça, c'est aussi... si après, les personnages sont placés comme ça au début, mais qu'après, c'est l'ordre de parole s'inverse, faut aussi réussir à trouver des astuces de toute
façon. C'est une succession de casse-tête, hein,
oui,
de toute manière.
Oui, oui, c'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration.
Absolument.
Entre autres.
Vous pouvez aussi mettre des. Faire des bulles qui s'alternent sans nécessairement faire à chaque fois une case différente. Enfin voilà, mettre plusieurs bulles dans la même case.
Ou
voilà,
des bulles qui passent d'une case sur l'autre,
ouais,
aussi.
Ouais. Et il y a aussi les onomatopées.
Oui, donc c'est l'autre partie texte du...
Voilà, mais qui est pas forcément, qui est généralement pas
en
dans
fait,
des bulles, en fait.
C'est généralement pas dans des bulles. Bon, je pense que tout le monde sait ce qu'est une onomatopée.
Boum, bang.
Voilà.
Des
indications de sound design.
Voilà, tout à fait.
Mais à l'écrit. Finalement, une onomatopée, peu importe vraiment qu'est-ce qui est écrit dessus, ce qu'il faut, c'est que... entre la place que ça prend et la façon dont c'est dessiné, parce que vraiment c'est plutôt dessiné
c'est
que lettré,
qu'on
puisse comprendre ce qui est impliqué comme...
Ça va exprimer le son plus que ça va le dire, en fait.
C'est de l'ordre du
ressenti, quoi.
Ouais,
enfin, c'est vraiment de l'expressivité de la façon dont vous l'écrivez qui va qui va, que le cerveau va comprendre. Et le meilleur exemple de ça, c'est les mangas où les onomatopées sont pas traduites. Donc on peut pas le lire, mais on comprend quand même ce que ça exprime. On entend quelque part le son, en fait.
Oui, donc je parlais tout à l'heure avec Jackpot en off-screen, off-air plutôt, d'un passage dans One Piece où il y avait un personnage qui se faisait éjecter, il se prenait un coup de poing ou un truc comme ça, et il partait dans le ciel en criant « Ah !» Et ils avaient utilisé le hiragana.
Je crois que c'est ça.
Le hiragana du A qu'ils avaient mis en spirale autour du personnage jusqu'à ce que le A soit trop petit et que ça disparaisse. Et en fait, il n'y avait vraiment pas besoin de traduire le A pour comprendre quel était le...
C'est vraiment le cri. Et en plus, ça aide à voir la trajectoire du personnage. Oui, c'est génial.
Enfin, c'était vachement bien pensé. Et pour donner un exemple issu de mon propre webcomic, il y avait un passage dans l'introduction. Donc, vous n'avez pas besoin, si vous voulez juste regarder cette onomatopée, vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans la BD.
Mais c'est Frankenstein.
Où le personnage principal, Nathan, marchait dans une flaque d'eau et ça faisait splotch. Et du coup, j'avais dessiné un splosh avec des éclaboussures d'eau, en fait.
Des petites particules. Le cerveau, il entend le son plus qu'il ne le lit, quoi.
C'est ça.
Et ce qui fait aussi que Double FX School, vous n'avez pas forcément à vous demander... Parce que moi, je trouve que c'est un casse-tête de se demander le mot, en fait. Enfin, des fois, le son, tu l'entends, mais tu sais pas comment l'écrire, quoi. Et je trouve que des fois, mais qu'est-ce que je mets ? Je plorche, je plourche, comment je l'écris ? Alors qu'en fait, on s'en fiche, en fait.
Bim, bam, boum, bang. Mais moi, j'aime bien réfléchir à ça, je trouve ça marrant. Puis aussi, enfin, j'ai dit réfléchir, mais en fait, c'est plus d'instinct, je me dis, j'ai une idée drôle. Enfin, c'est...
Ouais. Ah bah, ça dépend aussi du ton de ta BD, parce que quand c'est de la comédie, tu vas plus avoir envie de trouver des mots rigolos. Quand tu veux être plus réaliste, c'est plus
compliqué. Ça dépend du ton, c'est clair. Enfin, moi, clairement, les onomatopées, j'en mets pas très très souvent, mais quand j'en mets, j'essaie de... Enfin, je me fais un peu plaisir avec.
Et tu as tout à fait raison.
Oui. Après, les onomatopées, c'est quand même un truc hyper anecdotique dans les BD. C'est sympa, c'est un petit bonus, mais c'est pas...
C'est pas anecdotique, c'est important quand même.
Pardon, désolé. Je voulais
libre
pas...
à vous de faire votre avis, votre opinion.
Enfin, en fait, on peut faire toute une BD sans avoir une seule onomatopée, sans que ça gêne.
Oui, oui.
Les onomatopées, c'est un bonus super sympa qui rajoute
si votre
de l'ambiance.
Si est suffisamment expressif et bien fait, même sans l'onomatopée, le cerveau va bruter, en fait.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est vrai que c'est un... Ouais, ça aide. Ouais. Mais c'est pas forcément...
C'est pas parce que c'est un bonus qu'il faut s'en priver si on a
tout à fait, voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, pour la partie texte. Donc, déjà, c'est un premier point très important à prendre en compte. La deuxième chose à laquelle vous allez probablement réfléchir, c'est ce qu'on appelle en cinématographie la valeur des plans. Donc évidemment, plan, ça vient du cinéma, donc ce serait en BD, je sais pas trop comment le traduire, mais en gros, quand vous dessinez votre case, vous allez vous demander ce que vous allez mettre dedans. Et donc, en cinématographie, on a une classification qui existe. Hein, donc je vais vous faire un petit topo très très schématique, hein, il y a beaucoup plus de sous-catégories, mais en gros, vous allez d'abord avoir du plan du plus large au plus serré, donc en gros ce qu'on appelle un plan général ou un plan d'ensemble. Donc en gros, en général, c'est quand on présente un décor, donc c'est une grande case, enfin souvent ça se traduit par un BD par une grande case.
C'est souvent des cases d'introduction,
ouais,
d'ailleurs,
souvent, c'est des cases d'introduction.
Du décor pour bien situer qui se trouve où.
Ça permet de situer où se place l'action, tout simplement, donc c'est ce qu'on appelle un establishing, en anglais dans l'Angleterre. Donc bon, un plan général, ça marche aussi. Donc là où c'est vraiment les grosses cases, vous allez dessiner le gros décor et on va pas forcément voir les personnages dedans, ou alors ils vont être en tout petit, mais on va pas les identifier. Ce qui va importer, c'est le décor. C'est vraiment où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est à Paris, est-ce qu'on est à la campagne, est-ce qu'on est au Japon, est-ce qu'on est aux États-Unis, voilà. Où est-ce qu'on est. Ensuite, vous avez le plan moyen ou plan américain, bon, c'est des variations, mais en gros, là on va situer le personnage dans le décor. C'est des plans où on va voir clairement le personnage, clairement l'identifier, mais aussi à quel endroit il se situe dans le décor. Ensuite, vous allez arriver vers le gros plan, le décor devient complètement accessoire, et ça va être vraiment la focalisation sur le personnage. Donc, en bande dessinée, souvent, à partir de là, on évacue les décors. Souvent, on les dessine plus.
On met ce qu'on appelle une color card derrière, voire rien du tout.
Soit un fond expressif qui va exprimer un peu l'état d'esprit du personnage,
oui, aussi,
ce qui
se passe.
Avec
des trames, des petits
zigouigouis. Voilà, parce qu'on est déformé professionnellement. C'est ça. Ou un fond blanc, tout simplement. Et ensuite, on va aller dans le très très gros plan. Alors ça, c'est souvent utilisé sur des objets, en fait, en cinéma, on appelle ça des inserts, bon, peu importe. Un très gros plan qui va se focaliser sur un élément en particulier. Souvent, dans le scénario, ça va être les fusils de Tchekhov, justement. Cet élément-là est important, donc on va montrer que lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très schématique, hein, ce que je vous dis. Mais moi, je pense que ça aide de réfléchir avec ces quatre valeurs-là, en fait.
Ouais,
parce
que ça permet déjà de pouvoir poser plusieurs sortes de...
Voilà, ça vous donne des fonctions assez claires, assez faciles à définir quand vous avez besoin de les utiliser. Et ensuite, vous avez la question du point de vue sur chacun de ces plans, vous pouvez dessiner qu'il soit en plongée ou en contre-plongée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va le regarder plus de haut ou est-ce qu'on va le regarder plus d'en dessous. Donc par convention, la plongée, c'est souvent pour. C'est un effet d'écrasement un petit peu. Ça va donner par exemple une sensation un peu de danger, par exemple. Enfin là, ça devient expressif à partir de là. Et la contre-plongée, ça va plus être l'inverse. Quand vous voulez rendre un personnage très impressionnant, vous allez peut-être essayer de le mettre en contre-plongée pour qu'il ait l'air vraiment de dominer le spectateur. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe avec le choix de vos valeurs de plan, c'est que vous allez définir deux choses. Vous allez définir qu'est-ce qu'on voit dans la case, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que vraiment le spectateur va voir, va comprendre, va voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette planche. Et la valeur subjective, c'est comment il le voit. Donc, et implicitement, à quel niveau il se situe par rapport au personnage. C'est-à-dire, est-ce qu'il les domine? Est-ce qu'il est au même niveau qu'eux? Est-ce qu'il est carrément dans leur peau? Ça peut arriver de faire des plans, ce qu'on appelle en vue subjective, où on est à travers les yeux du personnage. C'est beaucoup plus rare en BD, ouais. Parce que c'est plus compliqué à faire.
Surtout en cinéma, en fait, on a les mouvements de caméra pour indiquer que le personnage avance,
aussi, ouais.
Des trucs
ouais,
comme
ouais.
ça, qui
tournent
la tête.
Mais je me souviens de l'introduction de Firearm, je crois, un des
ouais.
comics... qu'on avait peut-être évoqué une fois,
où
il y avait toute une introduction justement, où c'était uniquement la vue subjective.
Ah.
Et j'avais trouvé ça assez intéressant.
Oh, il faudrait que je l'en lise, je l'en
ouais,
souviens.
Mais c'est plus compliqué à faire en BD, voilà. Et donc voilà, donc les valeurs de plan, c'est la deuxième... Enfin, c'est vraiment un outil indispensable au découpage, c'est votre grammaire en fait. C'est vraiment choisir, quand vous choisissez ce que vous allez montrer, vous allez choisir comment vous allez le montrer, donc un grand plan, un plan plus moyen. Qu'est-ce que vous allez éliminer les informations au fur et à mesure? Vous hiérarchisez les informations pour les faire passer au lecteur de la manière la plus efficace. Et je sais pas si je suis claire, si.
Oui. Enfin, moi j'étais déjà au courant, donc c'est peut-être ouais, pas à moi qu'il faut poser la question.
Mais... Dites-nous là, répondez.
Ouais, vous réagissez jamais.
C'est vrai.
Non, en plaisante, vous réagissez en commentaire et vous êtes très gentil.
Tout à fait, nous vous remercions pour cela. Donc voilà, bon, moi je sais que je réfléchis beaucoup comme ça, donc en définissant mes valeurs de plan. Et implicitement, je veux aussi arriver comme ça à la composition d'image. D'ailleurs, une fois que j'ai défini si mon plan c'est un plan général, j'ai besoin de situer le décor de l'action, donc je fais un plan général, comment je vais le composer? Donc, à partir de là, on a des règles qui sont plus... aussi des règles un petit peu objectives, on va dire, conventionnelles. Il y a la règle des tiers.
Oui.
Est-ce que tu l'utilises, toi?
J'y pense jamais. Alors en fait, c'est surtout que là, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure... On est en train de beaucoup décrire ça avec des mots, des conventions et tout, mais moi c'est beaucoup de choses que j'applique
d'instinct. C'est instinctif en fait, ouais.
Ouais, mais du coup, bon, la règle des tiers pour la décrire, c'est... ça marche mieux peut-être dans les cases que toi tu utilises qui sont en format cinématographique, mais grosso modo c'est de découper en tiers verticaux et horizontaux, qui deviennent des endroits...
des points de focale en fait.
Des points de focale graphiques.
Voilà, les endroits importants de votre image, il faut plutôt les mettre au tiers. Alors évidemment, dans le cadre d'une bande dessinée où chaque case a un format différent, etc., ça va
pas forcément
s'appliquer.
Ouais.
Mais c'est une règle qui est intéressante à connaître.
Mais en fait, globalement, ce que personnellement je trouve, c'est qu'on a plus de dynamisme quand on a des compositions de l'ordre de 2/3, 1/3.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est plus moi, je trouve ça plus intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moitiés ou des trucs comme ça, mais c'est à réserver pour des occasions où ça a une signification.
Bah, les moitiés, souvent, bah, visuellement, c'est moins
c'est un peu plan-plan.
En fait, voilà.
Mais ça peut... S'il y a besoin d'un effet de miroir ou quelque chose, c'est le format idéal.
Mmh.
Mais oui, du coup, personnellement, j'ai tendance à privilégier les 2/3, 1/3 ou les... Ouais, plutôt 2/3, 1/3 parce que... J'allais dire les autres formes de déséquilibre avec 3/4, 1/4, mais 1/4 ça devient tellement petit, il faut que la case soit hyper étirée pour que ça soit intéressant. Donc,
sachant que nous aussi en BD on a les bulles en fait,
ouais.
qui rentrent là-dedans, et en fait la règle des tiers c'est souvent utilisé en peinture par exemple, ou des arts visuels où il n'y a pas la nécessité de mettre le texte en plus. Donc
c'est
en fait les bulles elles rentrent dans ces règles sans tout à fait s'y appliquer. En fait.
Ouais, du coup quand on a une bulle où on a par exemple une bulle sur le côté gauche qui prend 1/3, et après il nous reste 2/3 de l'image, est-ce qu'on refait un tiers
on
découpe le côté de l'image en deux?
On va s'en sortir quoi, donc okay, il faut aussi y aller un peu à l'instinct à ce niveau-là.
Oui voilà, c'est pour ça que je disais que j'y pensais pas trop, c'est parce que ça devient du casse-tête.
Non, très sincèrement moi non plus.
Ça reste quand même une bonne règle à connaître.
Vous arrêtez pour règle des tiers, Pia.
Bon, ça reste... une bonne règle à connaître et à ingérer pour ensuite pouvoir l'utiliser le mieux possible.
Ouais.
Voilà. C'est l'assurance d'avoir une image bien composée.
Tout Tout à fait.
Du coup, après, puisqu'on est dans un art narratif, on va souvent avoir des dialogues ou des face-à-face ou quoi. Et du coup, la règle des 180 degrés, c'est une bonne règle à connaître aussi.
Ouais, alors ce qui est intéressant avec la règle des 180, c'est qu'encore une fois, ça vient du cinéma. Bon, on va souvent vous parler de ça parce que c'est notre domaine, bon, malheureusement. Désolée. mais je pense qu'elle est intéressante à connaître, mais en BD, elle va pas forcément s'appliquer de manière absolue.
En fait, on en discutait, Jackpot et moi, on se demandait quel point le fait que nous, on appliquait la règle des 180 degrés, c'était dû à une déformation professionnelle ou c'était vraiment utile en BD.
On n'a pas d'opinion tranchée là-dessus, on ne sait pas vraiment. Mais donc, en gros, la règle des 180, ça consiste à, par exemple, sur une scène de dialogue, votre première case, mettons, c'est un personnage à droite qui est de trois quarts d'eau, qui s'adresse à un personnage sur la gauche-droite, enfin, un personnage est à gauche, de trois quarts d'eau. Il s'adresse à un personnage qui est à droite, qui est de trois quarts face, du coup, donc ils sont face à face. Et ça va consister à, pour toutes les autres cases, toujours conserver cet agencement des personnages.
Gauche-droite.
Voilà, que le personnage A, il doit toujours rester à gauche de la case, et le personnage de B doit toujours rester à droite. Et si, par exemple, vous faites un plan où on ne voit plus qu'un seul des personnages qui s'adresse à l'autre, que son regard soit dans la bonne direction. Donc ça permet, parce que pourquoi on appelle ça la règle des 180 degrés, parce que ça sous-entend que le point de vue ne va à aucun moment se faire un 180 degrés autour des personnages.
Si vous avez une caméra qui filme les personnages, elle va pas tourner
autour d'eux, elle va rester toujours du même côté. Donc il n'y a pas de caméra avant de dessiner, donc ça s'applique plus au placement des personnages dans vos cases. Mais ça permet en fait de fluidifier la lecture aussi. Oui. C'est que ça permet aussi d'éviter qu'on se demande où est-ce qu'on est, qu'on se perde dans l'espace, qu'on comprenne tout de suite où se situent les personnages l'un par rapport aux autres, et qu'à un moment on se demande est-ce qu'il s'est téléporté, je comprends plus rien quoi.
Il a bougé, il s'est passé quoi Moi quand je lis des BD ou des webcomics où la règle des 180 degrés est jamais respectée, ça me gêne.
Ouais.
Parce que ça fait des sautes en fait. C'est comme des faux raccords à l'intérieur de la BD, mais si c'est ponctuel ou quoi, c'est beaucoup moins gênant que en cinéma, je trouve.
Oui, non.
Donc je pense qu'il y a clairement une
marge de manœuvre.
Ouais, une marge de manœuvre. Enfin, c'est pas autant une faute que au cinéma.
Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous pose la question du sens de l'action quand vous dessinez vos images, et ça rentre aussi en jeu dans votre narration, parce que par exemple, un personnage qui va courir de gauche à droite. Ça va inciter le regard du lecteur à le suivre en fait. Et donc, du coup, vous imprimez un mouvement au regard de votre lecteur, il faut que vous le guidiez ensuite. Est-ce qu'il va revenir de quelle manière il va revenir de l'autre côté? Est-ce qu'il va bien suivre? Si toutes les actions se passent de gauche à droite, ça va l'aider à suivre. Il faut que ça rebondisse sur les bulles. Enfin voilà, vous allez créer un labyrinthe comme ça. Mais du coup, ça vous aide de vous demander de quel côté je vais filmer, je vais montrer l'action et dans quel sens ça va toujours se passer. Les personnages qui marchent dans une rue, ils vont d'un point A à un point B. Si je veux vraiment montrer dans ma narration que ils font ce déplacement, je vais peut-être essayer de rester toujours dans ce sens-là, par exemple.
Par exemple, même chose que pour les 180 degrés, ça m'arrive aussi de lire des BD où le sens de déplacement des personnages change d'une case à l'autre.
Ah ouais, ça c'est perturbant.
Ça a tendance à me gêner. Peut-être plus que quand les 180 degrés sont brisés. Parce que ça donne l'impression qu'il a fait demi-tour, en fait.
C'est ça, exactement.
Qu'il a changé de direction.
En fait, narrativement, implicitement, ça donne une information à votre lecteur, en fait. Donc il faut que vous soyez conscient de cette information que vous envoyez. Si vous montrez un personnage qui marche de gauche à droite dans plusieurs cases d'affilée, le cerveau de votre lecteur va comprendre qu'il n'a pas fini son déplacement, en fait. Il est toujours en train de marcher dans la même direction,
et si d'un vers coup, le même but. Si d'un coup, alors que vous l'aviez fait se déplacer vraiment... tout le temps de gauche à droite, il va de droite à gauche, on va dire pourquoi.
Ouais, ou alors il revient, il est plus...
Moi j'ai eu à régler ce genre de truc à un moment où j'avais une mini course poursuite et où j'avais besoin que mon personnage bifurque à un moment, mais du coup j'arrivais pas à trouver comment réussir à le faire bifurquer en gardant le sens de l'action et en faisant en sorte que ce soit clair. C'était assez coton.
T'es resté dans le même sens ou t'as changé?
Alors je suis restée dans le même sens et j'ai montré sa bifurcation de dos, où en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des traits de vitesse pour montrer qu'il a fait fiouf comme tu vois. Mais je trouve que le dessin que j'ai fait était pas terrible, c'est juste que j'ai pas réussi à trouver une autre solution et que en essayant de jongler avec tout ça et que au bout d'un moment il fallait que je continue quoi.
C'est pas... moi une fois je me suis j'ai eu un j'avais un bête champ contre champ en fait, avec un personnage qui s'adresse à un autre l'un en face de l'autre. Je voulais absolument respecter ma règle des 180 et j'ai vraiment pensé très très fort à bien respecter le placement des personnages les uns par rapport aux autres, et je me suis trompée. Et je m'en suis rendu compte des années plus tard.
C'est vrai.
C'est vrai, c'était une scène où il y a Marie qui s'adresse à Alex et Mephisto.
Ouais.
Et donc Alex est avec un cheval en fait. Ouais. Et dans le contre-champ, le cheval a changé de place.
Oh, merde.
Il s'est inversé. Et je m'en suis pas rendu compte. Mais vraiment, je m'en suis pas rendu compte. Et alors que j'avais vraiment fait très attention. Hein. Je m'étais dit, attention, faut que je me trompe. Et bah non. Mais sauf que vraiment, je m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte bien plus tard. Et tout d'un coup, j'étais là. Ah mais en fait il s'est téléporté le cheval.
C'est peut-être pour dire que finalement on est en train de se poser des questions,
ouais,
alors que c'est peut-être
c'est
pas
ça,
important.
C'est...
Si même l'auteur s'en rend pas compte.
Ouais voilà. Donc nous sommes tous faillibles. Et ce qui est moi je trouve un truc que je trouve intéressant aussi dans le sens de l'action, c'est aussi les directions de regard.
Mm.
Ça c'est, je trouve ça très très important pour justement guider le regard de votre lecteur d'une case à une autre, d'une bulle à une autre, et aussi des personnages entre eux. Et un truc dans la composition que je trouve souvent oublié, c'est quand un personnage regarde dans une direction, je trouve ça bien de laisser de l'espace dans cette direction-là. C'est-à-dire que si un personnage regarde vers la droite, vous allez plutôt le côté sur la gauche de votre cadre,
oui,
pour qu'il y ait de l'espace à droite vers là où il regarde, en fait. Ça
ouais,
a
ouais,
moins de sens de laisser... Enfin, ça a moins de sens. Je trouve que c'est plus maladroit de laisser de l'espace à gauche alors qu'il regarde à droite.
Oui, parce qu'en fait, l'espace, même si graphiquement il est vide, il est narrativement utilisé,
c'est
par
ça,
le regard du personnage.
Voilà, exactement.
Alors que à gauche, c'est...
Oh, c'est joli.
Si c'est... Ah, n'est-ce pas. Je fais de la poésie. Alors que à gauche, si c'est le côté où le personnage tourne le dos, où il regarde pas, ça va être un espace fonctionnellement vide. Et
c'est
à
ça,
moins
exactement,
qu'il y ait une raison, là aussi, narrative pour que...
Bah ouais, parce qu'en fait,
pas,
du coup, ce regard, il va attirer l'attention, en fait, inconsciemment de votre lecteur. Et
ouais,
on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'arriver par derrière. Enfin voilà, du coup, ça va induire... En fait, ce qui est important, c'est que quand vous découpez, c'est que la moindre chose que vous dessinez, ça induit quelque chose narrativement. C'est vraiment le moindre espace que vous laissez, le moindre positionnement des choses, le cerveau de votre lecteur peut l'interpréter d'une façon qui va pas forcément aller dans le sens de ce que vous voulez raconter.
Eh oui.
Et je pense que c'est aussi important de laisser de l'espace autour des personnages parfois, parce que ça,
ouais,
moi, c'est un truc que je me suis dont je me suis rendu compte assez récemment, c'est que j'avais tendance à vouloir absolument remplir mes cases.
Mais non, en fait.
C'est-à-dire que voilà, je suis un peu, je suis dessinatrice, donc j'ai envie qu'on voit mes beaux dessins. Donc quand j'ai un personnage dans une case, je le colle au bord, tu vois, genre
ouais,
pour qu'on voit bien. Et en fait, c'est pas du tout nécessaire.
Mais non, il faut laisser respirer.
Il faut laisser respirer parce que déjà, ça peut exprimer une ambiance ou quelque chose. Et puis c'est tout simplement plus agréable à la lecture, en
ouais,
fait.
Que ce soit pas que les lignes soient pas, que ce soit les bulles, les personnages ou
ouais,
que ce soit, essayez d'éviter au maximum qu'il y ait des tangentes avec les bords de cases.
Ah oui, ouais,
ça c'est terrible.
Les mortels ennemis.
Les mortels ennemis. puis aussi en termes de quantité d'espace laissé, de niveau de détail de choses qu'on compte dessiner, parce qu'au niveau des thumbnails on met pas de détails,
ouais,
mais
ouais,
on prévoit parfois déjà d'en mettre. Ça exprime pas les mêmes choses aussi. Enfin, j'ai le souvenir d'une page d'une BD que je t'avais montrée, je sais pas si tu t'en souviens, où il y avait un personnage dans un
hall de gare là.
Ouais, dans un
ouais,
hall de gare ou un aéroport,
ouais,
où il y avait énormément de détails autour
ouais,
de lui. Il y avait
en fait,
une foule, il y avait
4 cases, mais sur toutes les cases, il y avait tous les décors et
ouais,
tous les personnages
ouais,
qu'il y avait.
Mais surtout, la case à laquelle je pense était la plus importante,
ouais,
elle était au-dessus. Et
peut-être
c'était
ouais,
vraiment, c'était plus un establishing.
Ouais, ouais.
Et il y avait, on voyait tout le décor et tout, et en fait c'était un moment qui était censé être émotionnel, où il retrouvait son frère ou je sais pas qui,
ouais,
qu'il avait plus vu depuis des années, du coup il y avait une étreinte, ils étaient au centre de la case, mais le fait est que ça fourmillait tellement de détails autour que l'émotion était complètement noyée,
ouais, ouais,
il passait inaperçu parce que graphiquement en fait ça prenait la même importance que ce personnage qui est censé être au second plan, mais et qui passe à serpillière, mais qui est dessiné avec autant de détails que les personnages qui sont en train de s'embrasser au centre.
Mmh.
Donc, en fait, trop de détails et d'attention à l'esthétique, ça peut tuer aussi la volonté.
Tout est. Enfin, c'est le moment où le découpage, c'est pour ça que ça nous prend beaucoup de concentration, c'est parce que c'est le moment où il faut réfléchir à tout. Tout est important. Et du coup, je trouve que la quantité d'espace, ça aide aussi à la circulation du regard, en fait. En fait, la circulation du regard va passer par le placement des bulles, le placement des actions dans les cases, enfin du dessin concrètement de la case, et l'espace qui reste autour, en fait.
Yep.
Et du coup, ça, c'est un truc que moi, j'ai évacué d'emblée dans le choix du format de Joe, qui est un format où j'ai décidé que je ne me poserais pas la question de la forme des cases, puisque c'est toujours la même. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu choisis vraiment la forme de tes cases?
Ouais, alors, là aussi, c'est beaucoup plus de l'instinct que du reste. Mais si j'essaye de mettre des mots dessus. Globalement, moi, mes cases, ça va reposer sur à quel point l'élément que je représente est important, Donc, est-ce que la case doit être grande ou pas? Est-ce qu'il doit être mis en exergue ou pas? Est-ce qu'il doit être tout seul, sans détail autour, du coup, et que ça implique de faire une case plus grande? Ou est-ce que ça va être une succession de petites actions, et du coup, je vais faire plein de petites cases pour montrer que ça va très très vite? Ou est-ce que ça va être de l'ambiance? Est-ce que... c'est ce genre de préoccupations-là qui permettent de répondre déjà à quelle taille vont prendre les cases. Et après, en ce qui concerne leur forme... ça va être, est-ce que je suis dans de l'action ou pas, et du coup ça va impliquer d'avoir des diagonales, ou est-ce que je vais rester plan-plan et je vais rester sur du
faire des cases plutôt rectangulaires ou carrées pour, ah, j'ai lu un conseil intéressant sur internet, je sais plus où, qui disait que les cases, que le format carré c'était à éviter, que la case carrée, vraiment carrée, c'était un truc visuellement, c'est un peu comme découper au milieu quoi.
Ça m'étonne pas trop comme comme conseil, parce que le carré, comme ce que je disais tout à l'heure à propos de la règle des tiers, c'est que deux tiers, un tiers, ça a tendance à être plus dynamique. On va avoir tendance à trouver qu'un carré, ça va être moins esthétique, moins intéressant. Mais je trouve que c'est un peu un faux conseil, parce que ça peut avoir de l'intérêt aussi, sur que ce soit pour une question de style ou d'envie narrative, ça peut être intéressant. Donc c'est plutôt prendre en compte que si on est débutant, c'est peut-être pas le meilleur choix, et qu'il faut avoir une idée de pourquoi on prendrait un carré si on décidait de faire une case carrée.
Parce qu'il y a aussi des formats où c'est des strips en 4 cases, où justement bah, c'est 4 carrés quoi.
Ouais, voilà. Du coup, ça va être des formats de strips qui vont être. Il va y avoir un découpage narratif hyper particulier.
Avec une chute, etc. C'est implicite au genre quoi.
Ouais. Du coup, pour moi, mes propres cases, c'est un peu. C'est plus. Je connais toutes les règles dont on a parlé. Et j'essaye de les appliquer d'instinct, et quand je bloque, là je commence à me poser un peu plus des questions qu'est-ce que j'ai besoin de faire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette case en fait, ou est-ce que j'ai besoin d'en faire plus d'une seule pour exprimer ce que je veux exprimer. Donc c'est ce que tu parlais tout à l'heure quand tu disais, tu parlais de qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au spectateur, la forme et l'agencement des cases y participent aussi. Par contre un truc que moi j'essaye de vraiment vraiment pas faire, c'est parce que je trouve que c'est très très difficile et que ça peut rendre confus très facilement, c'est d'avoir des cases avec une lecture où on change de sens, tu sais, où on va avoir du gauche-droite, et puis après on va mettre une case là, et puis ça va faire, ça peut faire, je sais pas comment l'expliquer autrement qu'avec des gestes.
C'est le truc où dans les Astérix, ils mettaient des flèches entre les cases,
par exemple. Pour moi, ça me dérange pas tant que ça, en tant que lectrice, parce que j'ai aussi été biberonnée au Astérix et aux trucs comme ça, d'avoir des flèches à suivre, mais je trouve ça hyper frustrant en tant que dessinatrice de me dire qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire pour comprendre comment il faut lire. J'ai l'impression que c'est un peu un échec. Et donc ça me plaît pas, donc j'essaye de faire en sorte au maximum de...
Toujours rester dans le sens de lecture.
De rester dans le sens de lecture gauche-droite et haut-bas.
Un truc qui peut vous aider aussi pour composer vos images quand vous réfléchissez justement à la composition de vos cases, moi j'y recours beaucoup, c'est de faire un plan au sol de l'espace dans lequel se situe l'action et et là où sont les personnages. Par exemple, vous voulez faire une scène avec trois personnages qui dialoguent dans une chambre, ça peut vous aider de faire vraiment un petit plan au sol comme un plan d'architecture où vous savez le lit est là, le bureau est là, la fenêtre est là, et du coup tel personnage est ici, tel personnage est ici, tel personnage est ici.
Et vous faites juste des petits points et des petits rectangles,
suffisant. Et à chaque case, vous vous demandez où est-ce que je suis dans la pièce, à travers quels yeux je regarde en fait. Et ça peut vous aider justement à éviter des erreurs, ce qu'on dit de raccord, c'est-à-dire que le personnage se téléporte ou que les éléments du décor se téléportent. Et ça peut vous aider à construire votre mise en scène en fait, pour toute la pièce. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte, finalement ce personnage, c'est plus simple s'il est à tel endroit de la pièce et qu'il n'en bouge pas, ou qu'à tel endroit il fait tel déplacement, voilà. Ça peut être en marge de vos petits thumbnails, vous faire des petits plans au sol, ça va aider à donner plus de consistance et plus de solidité à votre mise en scène.
Ouais, absolument. Ça m'est arrivé aussi d'avoir besoin de ça, notamment pour me dépêtrer de moments où l'action était très compliquée, il se passait beaucoup de choses un peu à la fois.
Ouais.
Et du coup, d'avoir pu mettre mon plan au sol, ça m'a aidé à faire le découpage aussi.
C'est un outil vraiment important, très, très utile. Et donc, dernier point qui rentre en jeu, c'est un peu le mélange un peu de tout ça, quoi. C'est la répartition de vos cases et en gros, ce qu'on appelle en cinéma le montage, mais en gros, de quelle manière vous allez faire se succéder les actions. Parce que finalement, en bande dessinée, on fait que se succéder des actions. Mais vous allez décider au moment de votre découpage en quel ordre vous allez les montrer. Si vous allez surdécouper, c'est-à-dire une même action, montrer plusieurs dessins pour vraiment la détailler, ou au contraire l'éluder. Quel rythme vous allez vraiment donner à votre narration? Est-ce que c'est un moment où vous avez envie qu'on ait une impression de vitesse, que quelque chose des actions se succèdent très rapidement, ou au contraire, est-ce que vous voulez que ce soit calme, contemplatif? Donc vous allez justement à ce moment-là peut-être mettre des grandes cases avec un grand décor, ou beaucoup de vide, ou des choses comme ça. Donc là, c'est le moment où vous mettez tout ensemble, c'est le moment où vous avez créé un peu la temporalité de votre narration, quoi.
C'est ça.
Donc notamment un paramètre que vous pouvez utiliser, une règle un peu que vous pouvez utiliser, c'est vous dire si c'est une action qui est importante, je vais prendre une grande case. Si c'est une action qui est plus mineure, je vais mettre une petite case. Ça peut déjà vous aider à hiérarchiser les informations. Et surtout, moi je pense que ce que j'essaie d'éviter de faire le maximum, c'est de montrer, c'est ce que je disais au tout début, hein, c'est que pour moi c'est une case, une action. Je vais essayer à aucun moment de mettre deux actions dans la même case, ou alors il faut que la deuxième action soit vraiment accessoire, qu'elle soit pas nécessaire à ce qu'on... Ça peut être un petit gag en fond, ou quelque chose qui va amener de la vie dans l'univers ou ça, mais il faut pas que ce soit une action qui est nécessaire à la compréhension de l'histoire.
Faut pas que ce soit une action d'égale importance,
voilà.
Pour pas que ça empiète sur la lecture de l'autre.
Parce que le cerveau de votre lecteur, il va chercher à aller au plus vite, il va chercher à prendre la première chose qu'il voit, il va pas aller fouiller dans la case pour voir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, pour comprendre.
Ouais, du coup, pour aussi parler de comment les cases se suivent, il y a la gouttière qui permet de jouer avec ça.
Alors la gouttière, c'est l'espace qui est entre vos cases, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un élément narratif en lui-même.
Ouais, alors moi j'avoue très humblement que Jackpot m'a appris un truc sur l'utilisation de la gouttière que je ne connaissais pas, et maintenant qu'elle me l'a dit, j'y fais attention et je suis...
Alors ça, c'est une convention que moi j'ai apprise en lisant L'apprenti mangaka de Akira Toriyama, qui est un petit manga qui est sorti dans les années 90 ou 2000, je sais plus, enfin voilà, où il se donne le rôle d'un prof de manga, qui est très, très instructif, et en fait il est dans cet apprenti manga, il énonce une règle de convention qui dit que les gouttières, donc l'espace entre les cases, doivent être plus étroites dans la séparation verticale des cases, et plus larges sur la séparation horizontale.
Apparemment ça aide la lecture.
Ouais, apparemment ça fluidifie la lecture, ça aide justement à guider le regard dans le bon sens, etc. Ouais. Et après, c'est comme toute règle, c'est pas forcément à respecter à tout prix, mais c'est intéressant de la connaître.
Alors moi, clairement, je la connaissais pas, voilà. Et j'ai jamais appliqué cette règle, et maintenant, je sais pas, je vais peut-être l'appliquer.
Ça va faire bugger.
Ouais, non, mais vraiment, je suis en pleine remise en question.
Mais du coup, la gouttière, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut exprimer quelque chose dans votre narration. C'est-à-dire qu'une très très grande gouttière, tout d'un coup, entre deux cases, vous mettez un très grand espace, bah ça va, vous allez exprimer quelque chose narrativement. Vous allez exprimer, il s'est passé du temps, ou il y a une ellipse, ou il y a vraiment un blanc, c'est un moment de rupture. Voilà,
alors, la gouttière, le bord des cases et la façon dont la gouttière peut être remplie ou non, ça va avoir aussi un impact aussi. Par exemple, moi, j'ai pas de bord de case, mais des fois, je fais déborder mes cases dans la gouttière, voire sur les sous perdu, ouais. Les cases.
Ah, oui,
je fais des fonds perdus.
Ouais.
Et je vais mettre du coup, j'ai pas de bord au sens où j'ai pas de trait.
T'as pas de contour.
J'ai pas de contour, voilà, j'ai pas de contour noir. Mais je vais avoir soit un bord en fondu avec du blanc sur le reste de ma page, soit je vais avoir un bord avec, concret, comme d'habitude, mais sous une case. Et ça peut exprimer des choses aussi.
La simultanéité des actions, par exemple.
Par exemple. Ouais. Ou alors le fait que l'action de la case la plus grande s'étend tellement que ça empiète un peu.
Ça peut se trouver, ouais. Par exemple, vous avez une grande, grande case, une immense case avec un énorme décor, etc. Mm-hmm. Et vous voulez quand même montrer ce qui se passe dans cette case à ce moment-là. Donc vous allez rajouter des petites cases dessus.
Exactement,
sur les personnages qui se parlent, par exemple. Et ça va, le lecteur va comprendre, ça se passe en même temps, en fait.
Mm-hmm. Et sinon, par exemple, on va encore citer One Piece, hein, on ne s'en lasse pas de One Piece. Mais par exemple, dans One Piece, quand ils font des flashbacks, la bordure
devient noire.
La gouttière devient noire, et ils font un petit fondu entre le moment où ils passent du présent au flashback. Et
là aussi, c'est un outil narratif.
Oui, voilà.
C'est-à-dire qu'au lieu de dire plusieurs années plus tôt, passer la gouttière en noir, le lecteur comprend c'est un flashback.
Et du coup, maintenant c'est devenu une convention, il a tellement utilisé de flashback que je pense que d'autres personnes.
Je pense que c'est pas lui qui a inventé le procédé.
Non, mais clairement, il l'a démocratisé. One Piece, ça doit être l'une des œuvres où il y a le plus de flashbacks.
Ouais, peut-être. Je ne serais pas aussi catégorique là-dessus.
Mais... Je sais pas, mais chaque personnage en a 3 ou 4, donc...
Ah oui, peut-être. En même temps, sur 80 tomes, t'en fais
des flashbacks. Ouais, c'est vrai. On va tout d'abord dire, la gouttière est à ne pas sous-estimer. Prenez soin de vos gouttières.
Entretenez-les bien.
Je Bah oui, ah, tiens, sinon les amas de feuilles mortes, tout ça. Après, ça déborde.
Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Voilà, ça reste très général, mais en gros, c'est les quatre vraiment éléments auxquels vous allez réfléchir en découpant. Du coup, quelles sont IA les erreurs à éviter quand on fait un découpage?
Déjà, pourquoi vous vous lancez dans du webcomic, franchement? C'est beaucoup trop compliqué.
Allez plutôt faire du foot ou du tricot.
Allez prendre l'air. Enfin, faites un truc. Non, donc, alors, les erreurs à éviter. Si vous débutez, ce conseil s'applique en particulier à vous. C'est vachement bien d'avoir un ou une bêta lectrice, lecteur.
Ouais, ouais, quelqu'un qui puisse vraiment vous relire et surtout vous dire s'il comprend.
Ouais. Ça, c'est vraiment la clé.
Ouais, ouais. Si vraiment c'est vraiment votre première bande dessinée, vos premiers essais de découpage, trouvez quelqu'un de confiance à qui montrer vos planches et vraiment demandez-lui tout simplement, même pas son avis sur le scénario, sur le dessin ou quoi, est-ce que tu comprends ce qui se passe?
Ouais, parce que vous êtes dans votre tête, vous savez très bien ce qui se passe et vous allez peut-être pas vous rendre compte qu'en fait vous avez mis un agencement de cases qui font qu'on comprend pas qu'est-ce que les personnages font.
Exactement,
en fait.
Ouais.
Ou qui parlent ou quoi que ce soit.
Ça, c'est vraiment important d'avoir le recul nécessaire pour s'en rendre compte. Et pas d'excuses. On ne veut pas vous entendre dire « on ne comprend pas, mais c'est mon style ». Non, 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 on ne comprend pas, c'est une erreur.
Si vous voulez raconter une histoire et qu'on ne comprend pas votre histoire, c'est que là, c'est raté, problème, quoi. Voilà. C'est qu'il faut refaire quelque chose.
Là, nous sommes sans appel, sans équivoque, unanime.
Après, un autre conseil sur lequel moi j'appuierais bien pour l'étape du découpage thumbnail storyboard, vous êtes là pour tester, pour jeter, pour faire plein de tests, donc ne rentrez pas dans le côté esthétique tout de suite.
Ouais, vous faites pas du dessin, vous faites du découpage. Vous n'êtes pas en train de chercher un truc joli, un truc dans votre style, un truc quoi que ce soit, vous réfléchissez à votre narration.
C'est ça.
Donc il faut, voilà, on disait les bosons de patates, les thumbnails, les trucs vraiment très petits, très rapides, pour que si ça marche pas, vous jetez, vous effacez, vous recommencez quoi.
Ah, si vous voulez distinguer vos personnages, vous en utilisez... S'ils ont des caractéristiques physiques comme un grand nez, vous faites la même patate mais avec un grand nez, ou alors vous mettez les lettres sur leur front pour savoir quel personnage est qui. Mais le découpage, c'est vraiment une étape empirique et pas une étape esthétique. Mais ceci étant dit, ça peut parfaitement arriver que vous ayez un flash visuel d'un truc particulier, que du coup vous ayez besoin de vous empresser de faire un brouillon plus détaillé pour pas oublier vous avez... visualisé. Mais ça, si ça vous arrive, et tant mieux si ça vous arrive parce que c'est super cool, ça doit quand même rester exceptionnel.
Ouais, ouais.
C'est pas, il faut pas que tout votre découpage il soit fait sur ce critère-là.
C'est ça, vous faites votre découpage, vous faites pas votre planche.
Oui.
C'est vraiment votre brouillon. Et faut aussi pas restez pas bloqué non plus. On vous met beaucoup de pression, on vous dit c'est super important. mais voilà, relax encore une fois. Je vais redire c'est ma catchphrase, mais on fait pas de la chirurgie cardiovasculaire. Si vous avez un moment de votre découpage, vous êtes pas sûr de vous et tout ça à 100%, bah c'est pas grave. À un moment donné, faut y aller. Surtout que faut vous dire aussi que ça, l'avantage que ce soit un brouillon, c'est que vous pouvez le changer derrière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mis en place votre découpage à, mettons, 70-80%, et au moment où vous allez le dessiner, bah là, vous allez trouver d'autres solutions aussi.
Ouais, exactement.
Ça m'est arrivé des fois, des cases qui, finalement, mon pré-découpage, il était bien, mais finalement, au moment où je le dessine, j'ai de meilleures idées, en fait.
Tout à fait. Ouais, ça m'arrive aussi assez régulièrement.
Et surtout toi, IA, en plus, où tu t'améliores ton script en même temps que tu fais ton découpage, voilà, l'amélioration, elle est à toutes les étapes. Ouais, voilà.
Ouais. Oui, du coup, ça implique quand même que même pour moi qui suis constamment en train de me dire je peux modifier un peu des trucs plus tard ou quoi que ce soit, il y a quand même un moment où je dois me dire stop, parce que sinon, en fait, j'arrête jamais, quoi.
Ouais.
Et quand je me dis stop, je me dis pas stop parce que c'est parfait, je me dis stop parce que je veux passer à la suite. Parce que j'ai déjà passé suffisamment de temps sur un truc et que ça suffit. Je veux faire autre chose.
Faut avancer. N'oubliez pas, vous faites du webcomic. Ouais. De toute façon, vous allez avoir des deadlines toutes les semaines, hein, donc à un moment donné, ça va être... voilà. Petit disclaimer habituel, hein. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est notre méthode, ça n'engage que nous. On a un bagage qui est conventionnel, qui est aussi déformé par le fait qu'on travaille dans l'audiovisuel, dans le storyboard, etc., donc qui n'est pas le même média. Donc il n'y a autant de possibilités de faire du découpage qu'il y a d'artistes. Ouais. Et vous pouvez tout à fait jeter à la poubelle tout ce qu'on vient de vous dire, pourquoi vous écoutez le podcast, et faire complètement à votre sauce. Enfin, il y a des artistes qui font des découpages très très... Enfin, qui font pas vraiment de découpage, en fait, qui ont des planches, on dirait des peintures, quoi. Enfin, ouais. Mais si ça arrive à véhiculer l'histoire et l'émotion que ça veut véhiculer, bah, il n'y a pas de problème, hein, allez-y. Hein.
Ouais.
On va pas aller vous mesurer la taille de vos gouttières et vous dire, là, la règle des 180, ça va pas. C'est, voilà, freedom.
En fait, le plus important, c'est que ça vous corresponde à vous.
Voilà. Et que ça véhicule ce que vous voulez véhiculer.
Oui. Et bon, quand même, dans le cadre d'un art narratif, que les gens qui le lisent éventuellement le comprennent, voilà. Disons que c'est les points les plus importants.
Voilà.
Pour aller plus loin, on va vous recommander des petits bouquins.
Ouais, des petites lectures, ouais. De scènes lectures.
Donc on va vous recommander ce que Jackpot a déjà mentionné, à savoir L'apprenti mangaka de Akira Toriyama.
Ouais, donc l'auteur de Dragon Ball, hein, s'il faut le resituer.
Oui, si jamais vous avez besoin. Donc c'est un manga.
Ouais, c'est un petit manga vraiment. Au début, ça fait un peu humoristique. Il y a des petits personnages, il y a le maître, le sensei, et un petit apprenti, puis il arrête pas de le vanner. Enfin voilà, il y a une dynamique un peu comique entre les deux. Mais
du coup, ça se lit bien.
Ouais, mais le fond est vraiment instructif, très okay. Très instructif.
On vous recommande aussi L'art invisible de Scott McCloud, qu'on avait réussi à ne pas encore recommander.
C'est vrai, on ne l'a pas cité.
Non, je crois pas. Peut-être qu'on l'a cité. Mais recommandé, ouais, je sais pas.
Les dieux de la bande dessinée nous jugent.
Ouais. Bon, L'art invisible de Scott McCloud, c'est la référence en matière de
bande dessinée en général.
De voilà. Décortiquage ouais. Analytique de ouais. La bande dessinée.
C'est une bande dessinée analytique sur la bande dessinée, en fait.
Oui, c'est très très instructif.
Il faut le lire, voilà, tout simplement.
Et même si c'est pas trop votre style graphique ou quoi,
ouais.
Si vous êtes, on va partir du principe que si vous écoutez podcast, ça vous intéresse. Mais du coup, si vous êtes intéressé par l'analyse du média bande dessinée, c'est hyper instructif. Et moi, je sais
c'est
que quand à chaque fois que je l'ai lu, j'avais le cerveau qui tournait à fond ouais, en même temps parce que ça me donnait plein d'idées. Aussi lire plein d'autres BD et d'essayer de regarder ouais. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est de vous demander pourquoi quand je lis cette planche, j'ai cette sensation-là. Ou pourquoi est-ce que j'ai lu ces cases dans ce sens-là. Voilà. Essayez d'analyser un petit peu, faites du rétro-engineering, et ça vous donnera aussi des idées à utiliser, vous, dans votre bande dessinée.
Ouais. Et si vous avez envie de voir un peu jusqu'où on peut aller en termes de briser le quatrième mur et s'amuser avec la composition des planches, on vous recommande de taper Philémon de Fred sur Google ou tout autre...
Auteur de moteur de recherche plus éthique.
Voilà. Donc c'est une BD des années quoi, 60, 70
idée, ouais, 80 ouais,
c'est, je
ouais,
sais plus.
Oui, non,
enfin ça a dû durer un certain temps parce qu'il y a quand même beaucoup de volume. Et donc Philémon, c'est... comment dire ?
C'est un peu une bande dessinée sur la bande dessinée, une bande ouais, dessinée de méta où les personnages ont conscience qu'ils sont des personnages de bande dessinée, ouais. Je crois.
En tout cas, ils habitent sur le hall de l'océan Atlantique,
ouais.
Ce qui est déjà une indication en soi que...
Ouais, ouais, et ça leur arrive de passer d'une case à l'autre en enjambant la gouttière
ouais.
Ou des choses comme ça, quoi. C'est
ouais.
Vraiment complètement méta sur la bande dessinée, le fait d'être un personnage, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis dans une bande dessinée, ça veut dire que ce qui se passe ensuite, c'est sous mes pieds, enfin ce genre de choses, quoi.
Enfin, du coup, ça a l'air un petit peu classique dit comme ça, mais il y a des choses qui vont un peu plus loin que ça.
Ouais.
Et c'est très intéressant de regarder à quoi ils avaient déjà pensé à l'époque. Et en tout cas, même en général, moi, j'aimais bien Philémon quand j'étais ado, donc c'est une bonne BD.
Alors, on vous la recommande, c'est une bonne lecture. Voilà, donc on va conclure ce fat épisode. Donc, vous aurez compris notre position, hein, faites attention à votre découpage. Vraiment, faites-y attention, prêtez-y un grand soin, appliquez-vous. Découper, c'est littéralement c'est faire de la bande dessinée. Hein. La bande dessinée, c'est pas le dessin finalement, c'est vraiment la narration.
Ouais, vous êtes comme, en train de décider qu'est-ce que vous racontez en fait.
C'est ça. Et c'est vraiment l'étape qui est. Enfin, nous en tout cas, Yaya et moi, on partage le fait qu'on adore cette étape. Elle est très très demandeuse en énergie, en concentration, mais c'est vraiment le moment où on fait le truc, quoi.
Ouais, c'est le moment où ça prend forme.
C'est ça, et ce que je dis, c'est qu'un bon... Enfin, pour moi, un bon découpage, il se suffit à lui-même. Idéalement, votre webcomic, il doit déjà être lisible à ce stade. Comme on disait, vous devez déjà pouvoir le montrer à votre bêta lecteur ou lectrice. Et tout le reste, finalement, c'est que de l'esthétique, voire de l'accessoire.
Ouais.
Voilà. Donc, gardez en tête que découper, c'est décider ce que vous montrez, comment vous le montrez, mais aussi décider ce que vous ne montrez pas.
Et comment vous l'éludez,
et comment vous allez l'éluder, ou voilà, oubliez pas que vous pouvez toujours tricher, il y a des choses qui vont vous paraître très compliquées à dessiner quand vous lisez le script, hein, moi ça m'arrive, et bah la question, quand je fais mon découpage, ça va être comment je vais faire pour ne pas le montrer, mais qu'on le comprenne quand même, voilà, donc je vais plutôt montrer la réaction des personnages qui voient, enfin voilà, ce genre de choses. Et pour terminer, surtout, testez, expérimentez et amusez-vous.
Oui, exactement. Donc, on va passer à notre recommandation de webcomic du jour. Et aujourd'hui, on va vous recommander Princesse, donc au pluriel, Princesse avec un S, de Neve. C'est une histoire qui a lieu dans un monde d'inspiration médiévale.
Ouais, c'est de la fantasy.
Oui. Où être un prince ou une princesse, ce n'est pas dépendant de sa naissance noble,
ni
de son genre, ouais. C'est une fonction.
Du coup, ça commence une espèce d'école, en fait, une école de princes, je crois.
Ouais,
de princesses, plutôt.
De
princesses, du coup.
Oui.
Voilà.
Bon, les deux.
Non, de princes, une école de princes. Et donc, le personnage principal, c'est Léanor.
Léanor, ouais. Qui est un. Elle est une prince, et elle est, en tant que prince, sa fonction, c'est qu'elle est chargée d'escorter un princesse,
voilà.
Qui s'appelle Trimène, et le tout se passe sur fond de guerre et d'intrigues politiques.
Ouais, en fait, on comprend très vite qu'il y a une grosse guerre derrière tout ça, qu'il y a des intrigues très pas nettes du tout, des histoires de, enfin, de langue,
il y a des histoires de caste aussi, avec
Le contexte sociopolitique derrière a l'air vraiment très très dense et c'est très intéressant.
Oui, on vous le recommande chaleureusement.
C'est la fin de cet épisode de podcast, donc merci beaucoup de l'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, vous abonner à la chaîne. Au passage, comme l'a dit tout à l'heure, on apprécie beaucoup vos commentaires, on vous remercie pour ceux qui en laissent, ça nous fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera cette fois-ci sur le thème du processus de dessin. Donc on va parler vraiment de rough, de clean, de colorisation, tout ça. À bientôt.
Bye bye.